Focus on. Focus on.
Dominique Quinchon et Pierre Constant, bonjour.
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 Alors, vous êtes respectivement président et vice-président de l'association Les PEP du Var. Alors, PEP, c'est Association départementale des pupilles de l'enseignement public. Hein, c'est surtout sous ce titre-là que l'on vous connaît. Alors, vous administrez une association qui a un âge plus que vénérable, 102 ans, si je ne me trompe. Hein.
C'est cela.
Et au départ, elle avait été créée pour venir en aide aux orphelins de la Première Guerre mondiale.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Le point de départ des pupilles de l'enseignement public, ça a été le fait que sur le plan national, il y a un certain nombre de figures de l'époque qui se sont mobilisées pour apporter aux jeunes qui malheureusement étaient parfois orphelins, hein, compte tenu de cette guerre 14-18, eh bien pour apporter un soutien afin qu'ils puissent continuer à venir à l'école et à l'époque surtout à l'école publique.
Oui, mais je rajouterai, si vous permettez, que c'était en 1915 et s'est créé ce qu'on appelle aujourd'hui la Fédération Générale des Pupilles d'Enseignement Public, mais les PEPS sont nés en 1915 hein, et notre association en 1916, un an après.
Alors, il y a eu ensuite la Seconde Guerre mondiale et bien d'autres conflits. Aujourd'hui, les missions de votre association se sont élargies ?
Oui, elles se sont élargies au fil du temps hein, pour essayer bien d'apporter aux personnes qui sont en situation de fragilité, de vulnérabilité, de pauvreté parfois, un certain nombre d'aides, de soutien, d'accompagnement, leur permettant d'être dans ce que nous appelons nous la société inclusive, c'est-à-dire ne laisser personne au bord du chemin, hein, faire attention à chaque projet de vie. Et c'est ça pour nous la société inclusive. C'est d'ailleurs le thème majeur de notre projet fédéral 2018-2022, agir pour une société solidaire et inclusive. C'est vraiment le cœur des PEP que cette inclusion de chaque citoyen, de chaque personne dans la vie de la cité en région générale, en essayant de lui apporter un maximum d'informations pour l'accès aux droits communs, en essayant de l'aider dans la définition, dans la réalisation de son projet de vie, et en faisant en sorte que notre action soit pour cette personne une action d'émancipation.
Alors quand vous parlez d'inclusion, ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, certains peuvent se sentir exclus à cause d'un handicap. Alors ça peut être les troubles de la fonction visuelle, ça peut être l'autisme, ça peut être une maladie, une hospitalisation.
Tout à fait. La notion d'inclusion est un peu plus large pour nous, hein, parce que nous sommes une association qui n'est pas monovalente, qui est plurivalente, polyvalente, et qui essaye d'agir dans tous les domaines de la vie sociale, aussi bien les loisirs, la culture, les sports, que les départs, par exemple, en colonie, les ALSH, qu'on appelle les ALSH, c'est-à-dire l'accueil en dehors du temps scolaire. Donc nous sommes vraiment plurivalents, polyvalents. Et pourquoi cette polyvalence? C'est parce que nous souhaitons aborder la personne dans la globalité de ses attentes, de ses besoins, de ses désirs. Hein, ça, pour nous, c'est quelque chose d'important. Et l'inclusion, mais je vais répondre à votre question, hein, mais l'inclusion ne se limite pas simplement, ce que vous voulez dire, au temps scolaire, par exemple, ou la notion de handicap. Elle est beaucoup plus large. Par exemple, dans ce que vous venez de dire sur l'hospitalisation, c'est vrai que nous sommes dans un cadre conventionnel avec l'éducation nationale pour permettre à des jeunes qui sont éloignés de l'école pour des raisons de santé, mentale, physique, eh bien pourraient continuer à recevoir un enseignement à domicile. Et en ce qui concerne les personnes qui sont en situation de handicap, en ce qui nous concerne dans le département du Var, nous avons un certain nombre d'actions en direction des jeunes qui ont des troubles sensoriels ou des troubles de la fonction cognitive. Nous avons ce que nous appelons des services de soins à domicile, hein, qui, sur quasiment l'ensemble du département, viennent aider, accompagner les jeunes, soit à leur domicile personnel, soit à leur résidence, soit, la notion de domicile étant très vaste, très large, soit dans un club sportif, et surtout à l'école, bien évidemment. Et nous avons aussi, notamment sur Draguignan, un centre médico-psychopédagogique qui nous permet de prévenir les problématiques des jeunes et de leur faciliter leur inclusion scolaire notamment. Et aussi un autre service de soins à domicile sur l'Est varois pour les jeunes qui éprouvent parfois des troubles autistiques et que nous accompagnons dans leur développement.
Ouais, la notion d'inclusion dépasse celle d'intégration, parce que pendant longtemps, on parlait d'intégration, d'intégrer. Et là, l'inclusion, comme vient d'expliquer M. Quinchon, c'est vraiment autre chose. C'est cette dimension-là qu'il a développée, qui fait que vraiment on prend l'individu pour lui permettre vraiment de se réaliser son projet. Ça, c'est vraiment autre chose. L'intégration, ça reste limité, ça l'a été pendant longtemps. Et là, on a franchi un cap. Je crois que c'est vraiment un progrès pertinent, important.
L'inclusion, c'est un changement de paradigme. C'est une transformation sociale. C'est d'ailleurs que par l'intégration, comme vient de dire Pierre, on avait plutôt l'impression que la personne devait se couler à un moule, à une norme, à une institution, si vous voulez. Et la notion d'inclusion renverse cette logique. C'est d'ailleurs que les institutions, que cette norme se mettent à la disposition, si je peux dire les choses comme ça, de la singularité de la personne, de son projet. Donc on n'est plus tout à fait dans le même rapport, si vous voulez, entre par exemple des professionnels et des familles. Hein. On part des familles, du projet de vie concernant des jeunes qui sont en situation de handicap. On part du projet de vie qu'ont les familles pour leurs enfants. Et c'est aux institutions scolaires, même nous en tant que services médico-sociaux, de nous adapter, de faire en sorte d'apporter tous les accompagnements, toutes les aides, toutes les préconisations possibles pour que ce projet de vie se réalise. C'est ça, cette transformation sociale, c'est-à-dire qu'il faut adapter la société à la singularité des personnes et non pas essayer de mouler les personnes dans quelque chose qui s'appellerait la norme.
Ouais, d'ailleurs, il y a un sigle qui peut surprendre, RAPT, R-A-P-T, c'est réponse adaptée pour tous. C'est arriver vraiment, comme l'a dit Dominique, de répondre à ce besoin de la personne. C'est vraiment une transformation sociale importante.
Pourquoi ? Parce que nous visons l'autonomie de la personne, son émancipation. Et quel est le sentiment d'être reconnu dans sa dignité ?
Donc, par rapport, si on reprend le titre de votre association, vous avez élargi vos missions, c'est-à-dire que ce n'est plus que les orphelins qui sont concernés par vos actions, mais également tous ceux qui sont en situation aujourd'hui de...
Mais ça nous arrive, par exemple, nous avons une longue tradition par rapport aux orphelins, et nous avons accompagné pendant de nombreuses années une jeune orpheline à la suite des inondations qui ont eu lieu en 2010 dans le Var. C'est notre tradition, et c'est pour ça que bon, on conserve aussi le sigle pupille. Hein. Bon, bien sûr, il a évolué avec la société, il doit évoluer avec la société, mais depuis de 2010 à 2017, quasiment pendant ces temps, nous avons accompagné une jeune orpheline donc à la suite des inondations, grâce aussi au fait que nous avons reçu, puisque nous sommes dans le cadre d'une fédération, nous avions reçu des dons à l'époque d'autres associations PEP sur le plan national qui nous ont permis d'aider cette jeune orpheline. Comme nous avons reçu en 1959, à la suite de la rupture du barrage de Malpassé, des dons venant de tous les écoliers de France qui nous ont permis de construire une maison d'enfants que nous avons à Seine-les-Alpes, dans les Alpes de Haute-Provence, et qui était destinée dans un premier temps aux enfants de Fréjus, aux orphelins de Fréjus.
Pour sinistrés.
Voilà, aux sinistrés, pour qu'ils puissent avoir un certain nombre d'expériences en dehors de la ville de Fréjus pour grandir. Et d'ailleurs, en 1960, de 1960 à, je crois, jusqu'à 70 ou 75, quand on regarde un peu nos documents, nous avons aidé aussi des orphelins de Fréjus grâce aux dons de tous les écoliers de France.
Alors, dans le Var, vous avez, au cours des trois années passées, des 3500 jeunes, dont 1300 l'année dernière. Vous constatez que les besoins sont plutôt stables ou en augmentation ?
Les besoins sont liés aussi à des politiques publiques. Si on prend, par exemple, notre service solidarité, Notre service Solidarité est un service qui aide aussi des jeunes à partir en classe de découverte avec leurs camarades, en leur octroyant des bourses. Mais ce marché, si je peux m'exprimer ainsi, des classes de découverte, a quand même fortement diminué quoi, au cours des années précédentes. Il y a eu une compression de ce marché, et les communes notamment, ou les collectivités territoriales, pour X raisons, ont quand même comprimé ces départs en classes de découverte. Donc, c'est difficile de vous répondre, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça ne baisse pas lorsque les jeunes partent en classe de découverte, ou lorsqu'on a besoin de leur octroyer des bourses demi-pension pour simplement avoir un déjeuner dans la journée. Quoi.
Ouais. Sans oublier le secteur vacances aussi, parce qu'il y a l'aide pour les classes à découverte, mais il peut y avoir aussi l'aide pour le départ en séjour de vacances d'été ou autres vacances. Hein, voilà.
D'accord. Alors, vous avez parlé de lutte contre les exclusions, enfin d'une société plus inclusive. C'était d'ailleurs le thème de votre congrès annuel qui s'est déroulé il y a quelques semaines maintenant. Alors en milieu rural, est-ce qu'il est plus facile ou moins facile de vivre dans une société solidaire et inclusive ?
Certains nombres d'éléments nous montrent qu'il est plus difficile de vivre en milieu rural dans cette perspective-là, quoi. Alors c'est lié, c'est un sentiment. Vous savez, on a pour asseoir notre réflexion sur notre projet 2018-2022, nous réalisons depuis plusieurs années un baromètre de la société inclusive avec avec un organisme qui est chargé donc de faire cette enquête. Et cette enquête montre les citoyens, à tort ou à raison, mais en tout cas lorsqu'ils s'expriment dans cette enquête, pensent que trois quarts d'entre eux, notre société est inégalitaire. Trois quarts d'entre eux, je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut représenter. Et c'est un chiffre qui est constant depuis les quatre années où nous réalisons ce baromètre. Dans notre République, trois quarts des citoyens, lorsqu'on les interroge sur la société républicaine, pensent qu'elle est inégalitaire. C'est quand même un chiffre qui doit faire réfléchir.
Donc inégalité au niveau des soins, j'ai vu dans ce baromètre 57%, inégalité au niveau de l'emploi 53%, mais également au niveau du logement 46%.
Oui. L'éducation aussi, le sentiment, mais de mémoire, c'est la santé qui arrive en premier. Ouais. Et je pense que la santé en milieu rural, ça doit être quand même beaucoup plus difficile qu'en milieu urbain, compte tenu de l'offre qui existe en milieu rural, bien sûr.
Alors, il y a le problème du déplacement, il y a le problème de la méconnaissance peut-être de certains troubles en milieu rural.
Oui.
Un manque de moyens aussi peut-être ?
Très certainement. Pour nous, c'est bien sûr que on pense qu'il y a des moyens qui devraient être supplémentaires accordés dans le cadre des politiques publiques. Nous sommes là pour accompagner les politiques publiques et effectivement, comme vous venez de le dire, faire remonter un certain nombre de situations que nous constatons de manquements graves au droit à la santé. Dans le milieu rural, oui, il y a des manquements graves au droit à la santé. Et j'ai l'impression que cette situation est quand même connue de la puissance publique et qu'elle essaye effectivement, si vous prenez par exemple la réflexion actuelle de l'ARS par rapport à cette question-là, oui, c'est mis en exergue et il y a quand même une volonté des politiques publiques pour qu'il n'y ait pas cette distance-là et ce sentiment d'inégalité. Hein. Et nous, bien sûr, on est là pour accompagner des politiques publiques, on ne peut pas les remplacer, on peut essayer de les enrichir, de les amender, de faire des propositions, mais c'est quand même l'État, les collectivités territoriales qui prennent les décisions. Et je crois de plus en plus, on n'est pas les seuls à montrer que par notre baromètre, il y a de fortes inégalités sur le territoire et que dans le milieu rural est particulièrement concerné. Et je pense que notre action depuis ces dernières années a permis à la puissance publique, celle qui décide, celle qui fait marcher la planche à billets, si je peux dire des choses comme ça, de prendre en compte cette dimension-là. Et on espère qu'on très rapidement, on aura des retombées de notre action associative par rapport à ces problématiques.
Oui, le sigle ARS, Agence régionale de santé, pour les auditeurs, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas tous ces sigles-là. Voilà.
Alors, vous avez interpellé des élus qui étaient présents lors de votre Assemblée Générale. Comment le message est-il perçu? Comment les élus également sur le terrain vivent la situation?
Tu peux peut-être répondre, puisque tu as la double casquette.
Oui, moi je suis un peu élu donc, sur Villecroze notamment. Mais c'est vrai qu'à l'occasion de l'Assemblée Générale qui s'est tenue donc, à Villecroze, dans la commune, avec donc, l'interpellation, l'invitation des élus locaux, notamment de la communauté de communes Lac-Gorge-Verdon, bien, il y a une prise de conscience, effectivement. D'abord, par rapport à la découverte de notre association, qui est connue, mais bon, avec ses limites, et on gagne à être connu. Nous ne sommes pas les seuls, mais dans ce domaine. C'est vrai que là, ça les interpelle, parce qu'ils ont pris conscience de ce que ça représentait, le dispositif qui est mis en place, et qui ne peut pas couvrir toutes les zones, et notamment à l'arrière-pays, s'il faut le dire comme ça. C'est certain qu'ils réalisent ce que ça représente dans le cadre du soin, de la prévention, et pour les scolaires, pour les enfants, les adolescents. Donc effectivement, les moyens, ils savent quelque chose, les moyens, ils sont limités, il faut susciter, et notamment au niveau de l'État, et l'Agence régionale de santé, la fameuse ARS, effectivement, ils sont preneurs, évidemment, ils veulent ça, mais actuellement, il y a une situation géographique, économique qui n'est pas simple, qui est complexe et qui ne peut pas permettre de couvrir tout ça. Alors si on prend notamment dans le cadre d'Arroy, vraiment, Barguignan, le fameux centre médico-psychopédagogique ou le fameux service de soins à domicile, le CESAD du MUI, il couvre une partie du territoire, mais il ne peut pas aller au-delà parce qu'il y a des problèmes de distance et puis les familles absolument aussi. C'est... Donc voilà, on a cette complexité, mais il faut croire en l'avenir. Les choses peuvent avancer. Voilà.
Le logement est également considéré comme un problème par les personnes que vous avez sondées dans votre baromètre à 46%. Est-ce que c'est un problème plus important en milieu rural qu'en milieu urbain?
C'est certainement... Je pense qu'il n'y a pas... Il ne doit pas y avoir véritablement de différence, parce que dans le milieu urbain, il y a quand même, il y a quand même le coût du logement qui doit être quand même un peu supérieur en milieu rural. Et donc, ce problème du logement, c'est à peu près identique. Il y a quand même eu, en ce qui concerne les personnes en situation de handicap ces dernières années, il y a quand même eu dans le cadre d'une politique du logement la question de l'accessibilité. Donc il y a eu quand même des progrès qui ont été réalisés par un ensemble de personnes ou d'institutions depuis la loi de 2002 sur les personnes en situation de handicap. Mais ce logement, c'est la base. Le logement, c'est comme l'emploi, comme l'accès aux droits de manière générale. C'est la base pour que les valeurs que nous défendons de liberté, d'égalité, de fraternité, elles puissent avoir un sens. Si vous n'avez pas de logement, pas d'emploi, aucun accès aux droits, toutes ces valeurs-là, vous les trouvez un peu superficielle, vous dites, mais elle n'existe pas. Et ça peut conduire quelquefois à certaines extrémités. Donc, non, il faut faire que ces droits au logement, à l'emploi, etc., soient effectifs pour que les personnes aient l'impression d'être dans une dynamique de projet de vie. Enfin, il me semble, sinon c'est un peu compliqué, Et tout ça, nous ne le maîtrisons pas. Ce que nous pouvons apporter, c'est notre le fait que ce logement, soit aussi situé dans une zone où il y a un certain nombre d'activités, ou que si ces logements sont situés dans une zone, on puisse offrir un certain nombre d'activités, bien sûr, en complément avec celles des collectivités territoriales comme une commune, parce que c'est quand même la politique communale que nous a Nous, on ne peut pas définir une politique institutionnelle au niveau de l'État ou au niveau d'une collectivité territoriale. On peut dire les choses comme je le rappelais tout à l'heure, mais nous, on ne peut pas impulser. Surtout parfois sur le plan économique et financier. Nous, on est là pour accompagner, on est là pour apporter la souplesse d'une association, et on est là pour rappeler à tout le monde qu'une association de loi de 1901, c'est la conjonction de plusieurs personnes qui se mettent ensemble avec un projet, avec des valeurs, comme nous, la solidarité, la laïcité, l'égalité, la citoyenneté, et qui sont là non pas pour faire des bénéfices, et si par bonheur ils peuvent faire des excédents pour le redonner aux usagers, aux personnes qui sont accompagnées. Donc c'est une philosophie. Et cette philosophie, dans un monde parfois libéral, dans une économie de marché, elle est remise en cause, elle est questionnée, elle est interpellée. Et pour nous, nous réfléchissons aussi à la place des associations dans la vie démocratique et dans la vie sociétale. Et nous avons parfois l'impression que notre place est remise en cause, enfin qu'elle n'est pas forcément toujours souhaitée. Hein. Nous ne sommes pas dans une démarche de marché, nous sommes dans une démarche de besoin, d'attente et de réponse à tout cela.
Oui, d'ailleurs, nous essayons de participer autant que faire se peut à ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Ça, vraiment, c'est l'inverse du marché, hein, le principe est autre. Quoi. C'est toujours la solidarité. Évidemment.
Et la solidarité est solidaire. Voilà.
Alors, votre association a eu 100 ans en 2016. Quels sont vos objectifs, vos projets pour les années à venir?
Alors, on va pas pour les 100 prochaines, parce que là, c'est un peu difficile. Hein, mais pour les. Nous essayons de caler nos projets, en gros, avec une législature. Par exemple, on avait sur le plan fédéral, on avait notre projet 2012-2017. Là, on va avoir celui 2018-2022. Hein. Nous pensons que 5 ans, c'est une bonne durée, c'est une bonne temporalité pour essayer d'arriver à réaliser, à mettre en œuvre notre projet. Donc, en ce qui concerne l'association des PEP 83, nous allons tout au long de l'année travailler notre projet, donc 2018-2022, bien sûr à partir de notre projet fédéral, hein, mais avec les spécificités qui sont les nôtres sur le plan départemental ou local, si vous voulez. Hein. Même si nous sommes aussi organisés en région avec une association régionale des pupilles de l'enseignement public qui couvre les départements de la région. Alors, je ne sais plus si, comme on l'appelle maintenant, PACA,
Provence Sud.
Tout le monde reconnaîtra la région dans laquelle nous
peut citer les départements.
On pourrait citer les départements.
06, 83, 84, 05, 04 et 13.
Voilà.
Donc au niveau varois, peut-être, quels sont vos axes de travail sur les 5 prochaines années? Vous avez peut-être certaines actions que vous prévoyez de privilégier?
Oui, alors, une action très très importante pour nous, mais qui est aussi liée à aux capacités financières, c'est la rénovation de notre centre de Chantemerle, qui est situé à Seine-des-Alpes. Hein. C'est un vaisseau amiral, hein, ce centre. Voilà, c'est la possibilité d'accueillir, enfin bon, toi tu connais puisque tu as travaillé pendant de nombreuses années, mais c'est la possibilité d'accueillir
160 lits.
160 lits. Alors, bon. Donc, qui a besoin d'un certain nombre de rénovations, hein, puisqu'il est il a été construit en un an, oui, entre 1950 et
l'année prochaine sera, dans deux ans, pendant 60 ans, en 2020. Quoi. Voilà.
Avec des normes, si vous voulez, plus actuelles, plus contemporaines, hein, même si la durée des séjours diminue. Hein, on est passé en quelques années d'une durée des séjours, par exemple, en classe de découverte, à 10 jours, à 3 ou 4 jours, à 4 ou 5 jours. Quoi. Ça a été diminué par deux par rapport à ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Donc ça va être notre action, disons, dans les deux prochaines années, trouver les financements, ou des philanthropes ou des mécènes, et ceux qui écoutent peut-être Radio Verdon seront intéressés, il n'y a pas de problème, hein, on les accueillera à bras ouverts, pour essayer de redonner à ce centre quelque chose qui va permettre de mieux accueillir et de mieux héberger et d'offrir d'autres possibilités aux personnes, aux enfants et aux adultes qui participeraient au séjour qu'on organise ou qu'on accueille. Donc ça va être un gros travail. Je vous l'assure, ça va être un gros travail de recherche de financement, etc. Ouais. Et pour une petite association comme la nôtre, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, hein, on peut le dire comme ça, qui nous tient à cœur, puisque bon, c'est un patrimoine de la solidarité nationale que nous essayons de mettre en valeur et de continuer à faire fonctionner. Voilà. Donc ça va être vraiment un gros travail. Après, nous avons tout un travail au niveau de nos services médico-sociaux pour aller encore plus vers l'inclusion, pour donner encore plus de si vous voulez, de... Parce que l'inclusion au niveau scolaire, ça demande une transformation aussi de l'école. C'est pas simplement, encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, intégrer. C'est peut-être une autre conception du travail avec les familles, une autre conception du travail en équipe, une valorisation peut-être de méthodes et de démarches pédagogiques plus innovantes, si vous voulez. Tout ça, nous souhaitons participer à cette dimension-là. Ça va être aussi une ouverture dans notre projet fédéral. Nous avons des projets pour les trois secteurs, si vous voulez, en gros, les loisirs, les politiques éducatives de proximité comme les crèches, etc. Et puis le secteur médico-social, le social et médico-social. Ça va être de nous ouvrir vers l'Europe. Hein, nous pensons que cette ouverture vers l'Europe va nous donner matière à réfléchir, à interpeller nos propres procédures, nos propres convictions, en tout cas essayer de les affirmer et essayer de les interroger. Ça nous paraît important. Nous avons aussi un projet extrêmement... Nous sommes soucieux d'un projet qui pour nous est très très important par rapport au service d'aide pédagogique à domicile. Il y a un certain nombre de jeunes qui sont dans ce qu'on appelle les refus scolaires anxieux. C'est-à-dire qu'ils ne fréquentent plus l'école parce que, bon, pour des raisons diverses et variées. Et nous mettons en place à l'heure actuelle tout un dispositif très, très intéressant qui est pour l'instant expérimental sur notre plateau de Lavalette, qui permet à ces jeunes de se retrouver, non pas dans une configuration comme sur le plan de l'école, mais de se retrouver dans une configuration avec des enseignants, avec un psychologue. L'année dernière, c'était avec un éducateur spécialisé de nos services, dans le cadre d'un contrat avec une famille, pour revenir à l'école, pour revenir en formation, pour pouvoir passer un examen. Donc ça, il faut qu'on en fasse l'évaluation, il faut qu'on en pérennise le financement, c'est pas toujours facile, je vous l'assure. Et ça, c'est un projet aussi extrêmement, extrêmement important que nous souhaitons porter au cours de ces 5 prochaines années. Alors bien sûr, nous souhaitons développer notre activité, parce que malgré le fait que nous avons à peu près 80 ETP et à peu près un budget autour de 5 millions d'euros, notre surface est parfois insuffisante pour faire un certain nombre de choses. Donc on aimerait développer notre budget pour pouvoir avoir plus de moyens et pour pouvoir appuyer et diversifier notre activité sur le plan départemental. Donc ça, c'est un projet de développement, si vous voulez, mais c'est quand on dit ça, nous, c'est pas un projet de développement financier, c'est pas un projet de développement budgétaire, c'est un projet, comme tu disais tout à l'heure, Pierre, pour entrer dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, et puis pour essayer d'apporter le plus de possibilités à ce projet que nous avons pour chaque personne. Hein, voilà, c'est ça qui nous intéresse. Nous souhaitons aussi, mais vous savez, nous sommes parfois confrontés à des à des situations... à des situations sociétales, quoi. C'est-à-dire que nous avons un service solidarité, mais la solidarité, ça se finance, c'est pas toujours simple. Donc, par rapport à notre projet, nous avons des projets de développement, mais nous avons aussi comment maintenir un certain nombre d'activités que nous avons à l'heure actuelle et qui pourraient être mises à mal par un certain nombre de diminutions de crédits qui nous viennent de l'État ou même simplement de personnes privées qui n'adhèrent plus. Donc c'est pas quelque chose de toujours simple.
Pour parler de l'Europe, l'ouverture sur l'Europe, c'est-à-dire que notre fédération donc, nous a invités à essayer de prendre contact avec d'autres pays pour confronter nos pratiques. Alors nous, sur le Var, nous l'avons fait au mois de février avec un institut qui se trouve en Italie, du côté de San Remo, exactement Arma d'Itage, où nous sommes allés rencontrer, nous avons été accueillis pour voir l'école inclusive en Italie, parce que les Italiens ont mis en place un dispositif d'école inclusive depuis 1977, donc ça fait 41 ans. Maintenant, ils sont vraiment, c'est une autre démarche, une autre conception sur laquelle nous adhérons et nous allons dans ce sens. Donc nous avons été accueillis, nous avons pu échanger et le retour évidemment va se passer mardi prochain, 22 mai, où nous accueillons cette délégation sur la Valette et le Muy pour leur faire découvrir nos pratiques, échanger, visiter nos locaux, enfin bref, voilà, échanger d'expériences. Donc c'est une démarche qui est, on va dire, nouvelle, parce que c'est, avant, on parlait de l'Europe, ça fait longtemps qu'on parle de l'Europe, mais nous en parlions de manière toujours, c'était une idée, on avait du mal à concrétiser. Nous sommes passés dans le concret maintenant et nous sommes même appelés à changer, à voir un autre pays d'ici la fin de l'année, serait sur l'Allemagne, où là aussi on essaie d'élargir et de comprendre, de partager. Voilà. Donc c'est déjà un processus là, qui vient de se mettre en place et qui est porteur, je crois, pour l'avenir. Quoi.
Bien sûr, mais pour établir, qu'on soit, pour préciser la pensée de Pierre, bien sûr c'est dans un premier temps pour des professionnels, mais ensuite ça sera pour les jeunes et leurs familles. Bien d'accord. On est dans un projet à long terme. Absolument. On espère que puisque je vous ai dit, c'est en gros 2018-2022, on espère que progressivement, on va développer des échanges pour les jeunes et leurs familles. C'est ça qui nous importe, bien sûr, le plus. Mais on passe par une première phase de rencontre entre les professionnels parce que ça, je crois que si les professionnels sont investis, sont impliqués, ils faciliteront beaucoup les choses, quoi.
Donc c'est bien, vous êtes une association qui a plein de projets pour l'avenir. Alors pour prolonger cette discussion, les auditeurs peuvent aller vous voir, aller à votre rencontre. Et ils peuvent également consulter votre site internet. Alors on peut peut-être donner les coordonnées.
Tout à fait, donc www.pep83.org.
Merci beaucoup Dominique Quinchon, Pierre Constant de nous avoir présenté votre association et le travail important que vous faites aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural.
Merci. Bien, merci à vous de nous avoir donné la parole.
Focus on. Focus on.